Y a-t-il un autre chemin ? Je me souviens de cette jeune fille qui avait participé avec un camp ski prière organisé par la communauté il y a déjà plusieurs années. Elle était catholique, pratiquante, sa famille aussi, mais elle me disait « Parfois j'ai envie de tout envoyer balader ». Est-ce qu'au fond, la religion ne me complique pas la vie? Est-ce qu'au fond, il n'y a pas d'autre chemin? Je vois mes amis au lycée, mes amis de faculté, etc. Ils ne sont pas croyants, ils font un peu comme ils veulent. Et somme toute, je ne les vois pas plus malheureux que moi, ou en tout cas, je ne suis pas, moi, plus heureuse qu'eux. Y a-t-il un autre chemin? Et souvent, lorsque on a cette tentation de rejeter le Seigneur, parce que le chemin proposé par le Seigneur, c'est vrai, c'est un chemin exigeant, c'est une porte étroite. C'est que souvent, on réduit la foi à une morale. Ça a été le drame, au fond, du XIXe siècle, avec le rigorisme moral. Être catholique, c'est faire ceci et ne pas faire cela. Et beaucoup de ne pas faire, beaucoup d'interdits. Et c'est vrai que c'est assez desséchant. Et de fait, ce rigorisme moral du XIXe siècle, eh bien, il a comme implosé en mai 68 avec tout ce que nous avons vu comme débordement. Mais c'est un principe un peu de balancier, ces effets de balancier que l'on voit dans l'histoire et dans l'histoire de l'Église aussi. Si on réduit la foi à une simple morale, eh bien, c'est vrai, on se dit, au fond, à quoi bon? C'est un peu dur. Si on n'a pas, au fond, cette lecture spirituelle. Nous sommes à la fin du chapitre 6e de Saint Jean. Les dimanches précédents, nous avons entendu Jésus qui révélait, au fond, qu'il était le pain de vie. Moi, celui qui mange ma chair et boit mon sang, celui-là a la vie éternelle. C'est vrai que, dit comme ça, sans la lumière de l'Eucharistie, ceci est mon corps, ceci est mon sang, ben c'est plutôt rude. Et de fait, les premiers chrétiens étaient traités d'anthropophages. Ils buvaient le sang et mangeaient la chair d'un homme qui s'appelait Jésus. Et si on n'a pas la réalité spirituelle que donne l'Eucharistie, on ne comprend rien. Mais il en va aussi pour d'autres choses. Je pense par exemple au mariage. Si on résume ce que demande l'Église catholique par rapport au mariage, eh bien, à une simple morale, et qu'on n'a pas cette réalité spirituelle, que par exemple l'Eucharistie, eh bien, on ne comprend pas le mariage tel qu'il est proposé par l'Église et ses exigences. Moi, j'accompagne beaucoup de fiancés vers le mariage, c'est mon ministère principal, et je vois que certains ont du mal, même s'ils ont beaucoup de bonne volonté, et ils sentent dans leur amour quelque chose qui est plus grand qu'eux-mêmes. Je me souviens de cette jeune fille, par exemple, qui avait été éduquée dans une famille catholique, elle était chez les pères jésuites à l'école, etc., donc elle avait tous les stempels, si j'ose dire, et elle disait, mais elle n'est pas pratiquante. Mais elle me disait, mais au fond, au moment de construire mon couple, je vais aller vers qui? Qui va me donner une lumière? Qui va me montrer un chemin? Elle me dit, je vais me tourner vers l'Église catholique. Parce que c'est la seule qui me montre une lumière. C'est la seule qui me tire vers le haut. Et c'est vrai que, eh bien, comme le dit saint Paul dans la deuxième lecture, ce que propose l'Église, c'est-à-dire ce que propose le Christ lui-même, c'est un amour qui est signe d'un amour de toujours à toujours, celui du Christ et de l'Église. Mais on comprend ce que demande l'Église pour le mariage à la lumière de l'Eucharistie, justement, parce qu'il y a d'abord une parole, cette parole ensuite elle est suivie du don des corps, et ensuite elle rayonne dans la fécondité. Et on voit dans la messe, il y a la parole de Dieu, ceci est mon corps, ceci est mon sang, et il y a la fécondité spirituelle par la communion. Mais cette structure, ça veut dire qu'il y a un ordre dans l'amour. Et c'est vrai, beaucoup des jeunes que j'accompagne sont en vie commune, et c'est vrai que je leur explique ça, je leur dis, voilà, mais si on n'a pas cette vie de foi vive qui fait comprendre au fond qu'il y a un ordre dans l'amour, bien on en reste à une morale desséchante. Mais cet ordre dans l'amour, il vient aussi de l'incarnation, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Alors c'est vrai qu'elle est exigeante cette parole, mais est-ce que ce que propose le Christ, par exemple, pour l'amour humain, est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand qui est proposé ailleurs ? Eh bien non. Regardez autour de vous, comme cette jeune fille qui tout d'un coup a pris conscience, elle me dit, c'est vrai, au moment de fonder un couple, je vais me tourner vers l'Église, parce qu'il y a elle, qui, déjà, il y a qu'elle qui propose une préparation, hein, et puis il y a qu'elle qui propose quelque chose de grand, d'un amour qui me tire vers le haut. Alors oui, c'est exigeant, cette parole hein, de par propos du mariage, d'un amour pour toujours, et comme je disais aux fiancés que j'ai mariés hier, bah, avec l'allongement de la durée de la vie, évidemment, la fidélité eh ben, devient peut-être plus exigeante qu'auparavant. Vous me direz, on se marie aussi plus tard. Mais au fond, le Seigneur nous demande de lui faire confiance. Et c'est ça la clé de tout. Foi et confiance, c'est la même origine, la même étymologie. Si je n'ai pas cette foi vive, c'est-à-dire cette confiance, ce cœur à cœur avec le Seigneur, ce que me demande le Seigneur me paraît difficile. Et c'est vrai que, je veux dire même, c'est impossible à vue humaine. Mais si j'ai cette confiance, cette profonde attachement à la personne même de Jésus, et j'ai cet attachement à la personne de Jésus, comment ? Eh bien, par la lecture de la parole de Dieu, par la prière personnelle, par la pratique des sacrements, et singulièrement la messe dominicale, le sacrement de la réconciliation, si j'ai cet attachement personnel à Jésus lui-même, eh bien, je sais que c'est la grâce qui agit en moi. C'est pas simplement mes forces. C'est pas simplement mes forces. C'est la grâce. Qui peut dire, buvez mon sang, mangez ma chair, et vous aurez la vie? Eh bien, que le Christ. Et donc, ça nous demande, nous aussi, de nous remettre, nous poser la question, où est-ce qu'on en est dans notre intimité avec le Seigneur? Est-ce qu'on n'a pas réduit peut-être notre foi à une simple morale, à un simple code de conduite? C'est vrai que c'est aussi un code de conduite, parce que quand on rencontre le Seigneur, on peut pas vivre comme si on ne l'avait pas rencontré, ça c'est tout à fait juste. Mais est-ce qu'on n'a pas parfois cette tendance, et j'ai vu par exemple ces dernières années avec les modifications de la loi sur le mariage, bon, beaucoup l'Église s'est mobilisée à juste titre, mais peut-être a beaucoup mis l'accent sur la dimension morale, peut-être moins spirituelle. Donc demandons au Seigneur lui-même de renouveler ce cœur à cœur avec lui. Demandons qu'il nous aide à revoir la vraie portée de toute chose. Au fond, lui qui a pour l'amour humain, par exemple, puisque saint Paul en parle, lui qui a pour l'amour humain un désir très grand. Et je vois dans les fiancés que j'accompagne, et certainement le père Emmanuel aussi pourrait le dire, quelque chose qui... Alors parfois, faut aller le chercher parce que voilà, ce sont des jeunes de leur temps et donc souvent pas pratiquants, souvent pas voilà qui ont vie commune avant le mariage, etc. Mais il y a un désir de grandeur, il y a un désir de quelque chose de sacré. Ils perçoivent à tâtons dans leur amour qu'il y a quelque chose qui dépasse leur amour. Et en se donnant à ça, eh bien, ils découvrent qu'ils vont pouvoir durer, non pas par leur propre force, mais parce qu'ils mettront au cœur de leur amour, quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, c'est-à-dire une transcendance. La communion demande la transcendance. Et c'est vrai que sans cette transcendance, eh bien, on est livré à nos psychologies blessées, et donc dans un face-à-face qui peut parfois, malheureusement, mal se terminer. Alors on va demander au Seigneur, en ce jour, qu'il... Peut-être qu'il y a des paroles de l'Évangile qu'on trouve trop dures, ça c'est vrai, comme par exemple le pardon, c'est pas une parole facile, hein, on va pas en parler aujourd'hui, mais l'amour humain, cette vision de l'amour humain, d'un amour qui s'engage pour toujours, qui s'engage dans une parole, hein, comme Dieu aussi s'engage dans une parole. Mais demandons au Seigneur qu'il nous redonne la vraie mesure de toute chose. Demandons-lui qu'il vienne nous renouveler intérieurement en ce jour pour que nous puissions découvrir ces beautés d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.